15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Dans cette émission, on parle de tous les sujets de santé qui vous préoccupent, sans tabou. C'est toujours sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au maquillage permanent. Vous allez voir, c'est un sujet passionnant. C'est à la fois un outil formidable pour se sentir mieux dans sa peau, pour corriger un défaut physique, par exemple une cicatrice. Mais ce n'est pas tout. Le maquillage permanent permet aussi de faire des miracles pour les personnes avec ou après un cancer, redessiner des sourcils perdus à cause d'une chimiothérapie ou même redessiner une aréole mammaire après une chirurgie. Notre invitée va tout nous expliquer, c'est Maud Ravière. Elle est esthéticienne et fondatrice de Maud Dermo Esthétique. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de techniques inhabituelles pour résoudre des problèmes médicaux parfois insolites. C'est bien surprenant tout ça, on va voir, on se demande. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien, on va parler de l'AIT, l'accident ischémique transitoire. Ce n'est pas un AVC, mais attention, cela peut parfois être une première alerte neurologique. On vous expliquera tout. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Il sera question de pilosité féminine. Catherine répondra à un jeune homme qui a quelques problèmes de libido depuis que sa copine ne s'épile plus.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle d'Aurélie, 46 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle parce que j'ai fait des prises de sang il y a peu de temps pour un bilan de cholestérol. Et je vois sur le résultat, mais je comprends rien, il y a écrit LDL, HDL, certains sont en gras, d'autres pas. Je voulais savoir, il faut regarder quoi pour savoir s'il y a du cholestérol?
Bon Jimmy, on parle donc de cholestérol pour débuter cette émission. Alors avant de répondre à la question d'Aurélie, pourquoi on prescrit ce type de bilan? D'ailleurs, on appelle ça le bilan lipidique, si
exactement.
Je ne me trompe pas.
Le bilan lipidique, donc c'est le cholestérol, c'est des lipides qui sont essentiels au fonctionnement de l'organisme.
Les lipides, c'est du gras.
C'est du gras, ça compose et ça maintient la structure des membranes cellulaires et ça permet la production de certaines hormones. Le cholestérol est fabriqué essentiellement par le foie et puis une partie par notre alimentation, ce qui explique que certains patients ont une hygiène de vie correcte et malgré tout ont du cholestérol. Alors on a deux types de cholestérol. C'est pas vraiment des types de cholestérol, c'est des molécules qui vont accompagner le cholestérol. On a le HDL cholestérol, c'est une lipoprotéine qu'on dit de haute densité. Ce bon cholestérol, il empêche la formation de plaques de cholestérol sur les artères qui va secondairement donner un infarctus ou un AVC.
Ça va boucher.
Et surtout, il emmène le surplus de cholestérol qui est stocké dans l'organisme vers le foie pour qu'il soit détruit. De l'autre côté, vous avez une lipoprotéine de faible densité qu'on appelle le LDL cholestérol. Lui, c'est le mauvais cholestérol car il distribue ce cholestérol vers tous les organes responsables des pathologies cardiovasculaires. Et donc, ce bilan, on le fait avec une prise de sang et on doit être à jeun pour le faire.
D'accord. Et si on n'a pas de... Enfin, on nous prescrit ce bilan lipidique, mais à partir de quel âge, si on n'a pas de problème particulier? D'ailleurs, il faut se dire, tiens, il faudrait peut-être que je teste mon cholestérol.
À partir de 50 ans, il faut le faire. Si on n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire,
si on
est en bonne
déjà
santé.
Fait un infarctus,
exactement. Et puis, on prescrit souvent avant la mise en route d'un traitement, d'une contraception hormonale. Dans ces cas-là, on fait un bilan lipidique pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et puis, en fonction de vos antécédents et de vos problèmes cardiaques, si vous avez fait un infarctus, un AVC, on vous surveille un peu plus que les autres.
D'accord. Alors, juste pour répondre quand même à la question d'Aurélie, comment on lit le résultat de ce bilan-là, LDL, HDL? Comment on sait qu'on a du cholestérol? Il faut regarder quoi?
Alors, ça, vous ne le lisez pas. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous avez souvent des chiffres en gras qui inquiètent les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, plus on va être sévère avec vous et plus on voudra que votre cholestérol soit bas. Typiquement, vous êtes en surpoids, vous avez du diabète, vous avez fait un infarctus, on veut que ce LDL cholestérol soit très bas. À l'inverse, vous avez 35 ans, vous êtes en bonne santé, vous ne fumez pas, on sera un peu plus tolérant. Donc on interprète les résultats du cholestérol en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire.
Et c'est le médecin qui le fait.
C'est pas à vous de le faire, c'est au médecin généraliste qui vous a prescrit le bilan, donc il faudra retourner le voir pour avoir l'interprétation.
Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Axel, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Alors je vous appelle parce que ma mère est un peu âgée et son médecin lui conseille de faire le vaccin Zona. Et j'en ai jamais entendu parler, donc je voulais savoir déjà ce que c'est et quels sont les risques de ce vaccin et puis c'est recommandé depuis quand. Merci beaucoup, au revoir.
Alors dis-moi un point sur ce vaccin contre le Zona. Pour qui il est recommandé déjà en France?
On peut le faire à partir de 50 ans, mais il est recommandé de 65 à 74 ans. Le but, c'est d'éviter le Zona. Le Zona, c'est le virus de la varicelle qu'on a eu ou pas dans l'enfance, qui est stocké dans les ganglions nerveux et qui, sous l'effet de la fatigue...
Il dort en fait. On a la varicelle enfant, mais le virus
ans,
reste en fait.
Il se réactive et plus vous avancez dans l'âge et plus vous avez un risque de faire un Zona, plus sévère et surtout d'avoir des séquelles de ce zona avec des douleurs post-zoostériennes, c'est-à-dire des douleurs neuropathiques, raison pour laquelle
c'est quoi,
on propose
comme douleur neuropathique.
À titre de neuropathique. Neuropathique, c'est des brûlures, des décharges électriques.
Ah oui, c'est pas
très invalidantes pour lesquelles les traitements ne marchent pas très bien.
Et cette vaccination, elle se fait en une dose, il y a un rappel, enfin comment ça se passe?
Une dose unique, on le fait une seule fois. La seule chose, c'est qu'on ne le fait pas avec le vaccin du pneumocoque. Sinon, pour le reste, si vous faites la grippe et le vaccin contre le zona, vous pouvez. Il est remboursé partiellement par la Sécu à partir de 65 ans. La mutuelle peut prendre en charge le reste. Il est plutôt efficace. On sait que de 60 à 69 ans, il réduit le risque de zona de 64%.
Quand même.
Et puis de 38% après 70 ans. Et les douleurs dont je vous ai parlé, on diminue ce risque de douleur de 66%. Bref, vaccinez-vous. C'est un bon moyen d'éviter des problèmes.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Alors si vous aussi, comme Axel qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de problèmes médicaux inhabituels, voire insolites. Et puis, on accueillera aussi notre invitée, c'est Maud Ravière. Elle est esthéticienne et fondatrice de Maud Dermato Esthétique. Et avec elle, nous allons faire un point sur les techniques de maquillage permanent. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée Maud Ravière, avec qui nous allons parler des techniques de maquillage permanent, c'est le moment du bon conseil de Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, aujourd'hui vous nous parlez de techniques inhabituelles pour résoudre des problèmes médicaux parfois insolites. Et on commence par l'histoire de cet enfant dont la langue était coincée dans une bouteille.
Eh oui, c'est un petit garçon. C'est souvent les garçons qui font des bêtises, mais bon.
Ouais, moi j'ai une petite fille qui en fait aussi. Hein.
Ouais, ben en tout cas, lui, il a essayé de boire la dernière goutte que se trouvait dans un jus d'une bouteille en verre. Et malheureusement, sa langue s'est trop retrouvée coincée, aspirée. Ça fait effectivement un effet ventouse.
J'ai fait le bruitage parce que d'habitude c'est vous, mais là c'est moi qui l'ai fait.
Exactement. Et donc ça se passe à Hanovre, en Allemagne. Et sa langue, du coup, était coincée. Et puis elle a commencé à enfler, être douloureuse et être décolorée. À ce moment-là, les médecins ont tenté de lubrifier la langue. Vous savez, comme quand on a une bague qui est coincée,
pour essayer de la faire glisser, quoi. Ouais,
impossible.
C'est ça.
Et ils se sont dit, il va falloir trouver une autre technique. Car si ça ne marche pas, il va falloir l'endormir, lui faire une anesthésie générale pour découper cette bouteille. Donc ils ont essayé d'introduire dans un premier temps un petit cathéter. Un cathéter, c'est comme une aiguille en plastique, celle qu'on met dans les perfusions, en se disant qu'on va libérer le vide, ça va faire comme un ballon qui se dégonfle.
Et ça, ça va sortir tout seul. Ah ben zut, ça n'a pas marché. Alors ils ont fait comment du coup?
Et un médecin s'est rappelé comment est-ce qu'il avait réussi à retirer un bouchon de liège d'une bouteille de vin alors qu'il n'avait pas de tire-bouchon. Ils ont donc décidé d'attacher à ce petit cathéter en plastique une seringue qu'ils ont introduit entre la langue et le goulot, et ils ont poussé de l'air, et avec un effet de piston de pression, la bouteille est sortie, l'enfant...
La langue est sortie.
Exactement, la langue est sortie de la bouteille, et l'enfant a été hospitalisé 24 heures, il a retrouvé sa langue avec sa couleur de taille et sa taille normale en 15 jours.
D'accord, alors vous voulez nous parler aussi d'une histoire d'une perle coincée dans le nez d'une petite fille que vous avez vue?
Oui, je m'en souviens toujours, j'étais interne, jeune et insouciant, elle avait 4 ans, et elle avait une perle qu'elle s'était mise dans le nez, dans la narine, en jouant. Et la maman la porte aux urgences, évidemment que j'essaie de la retirer avec des petits moyens techniques,
petits
ça
outils,
ne marche pas.
Bon.
Et puis la petite fille se met à pleurer, et je vois la maman lui dire « mais n'inquiète pas », elle lui fait un bisou. Et je me suis dit « bisou ». On va peut-être essayer quelque chose. Et donc, j'ai fait, sans le savoir, une technique qu'on appelle la technique du mother's kiss, le baiser de la maman.
Oui.
Il s'agit de souffler dans la narine contralatérale, dans l'autre narine, celle qui est vide, ou dans la bouche de la fille. Moi, à l'époque, je lui dis de souffler fort pour libérer cette perle. Et donc, la maman a soufflé très fort
dans la
narine.
Elle a fait dans la narine.
Et elle a libéré la perle.
Et de pouf, c'est sorti de l'autre
exactement.
Côté.
La même façon que la langue s'est décoincée de ce petit, de cette bouteille, et ben, ça marche aussi pour les perles.
Et apparemment, on peut réduire aussi certaines arythmies avec encore une fois un peu d'air. Disons,
exactement.
L'air nous sert à plein de choses. Allez-y,
exactement.
Expliquez-nous.
Ça s'appelle, on réduit ce qu'on appelle une tachycardie supraventriculaire.
Tout ça, c'est compliqué.
C'est une arythmie cardiaque qui entraîne des palpitations
le
avec un cœur.
Il bat
très très vite, quasiment à 200 par minute. C'est souvent mal toléré. On peut réduire cela avec des médicaments. Parfois, on
en soufflant dans la narine. Non, ça ne marche pas.
On peut faire aussi un choc électrique externe. Et puis, il y a une manœuvre qu'on appelle une manœuvre vagale. Cette manœuvre, elle sert à stimuler le 10e nerf crânien, qu'on appelle le nerf vagal, qui permet de ralentir la fréquence cardiaque dans ce contexte de tachycardie. On doit faire une manœuvre qui s'appelle la manœuvre de Valsalva. Pour ça, il suffit que le patient soit allongé sur le dos et qu'il souffle fort dans une seringue pour faire un effet piston. Et ça réduit aussi les arythmies cardiaques. Bref, on ne manque pas d'air, Mais on a beaucoup de solutions.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces histoires médicales insolites aujourd'hui. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour consacré au maquillage permanent. C'est Maud Ravier. Elle est esthéticienne et fondatrice de Maud Dermo Esthétique. Et pas Maud Dermato Esthétique, comme je l'ai dit. C'est Maud Dermo Esthétique.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Maud Ravier.
Bonjour Mélanie.
Alors, ravie de vous recevoir sur ce plateau. Pour ceux qui l'ignorent, peut-être on va commencer quand même par la base. Qu'est-ce que c'est le maquillage permanent ? Est-ce que c'est comme le tatouage ? C'est de l'encre forcément ?
Tout à fait. Le maquillage permanent, en fait, on introduit à l'aide d'une aiguille très fine et stérile, bien sûr, un pigment sur la couche superficielle de la peau.
C'est-à-dire, alors superficielle, vous allez à quelle profondeur à peu
près ?
On
va généralement à 0,8. Il ne faut vraiment pas dépasser le début du derme, parce qu'après ça pourrait faire des trop gros dommages sur la peau.
D'accord. Depuis combien de temps ça existe, le maquillage permanent ? Moi, j'ai des souvenirs un peu quand j'étais plus jeune de choses un peu ratées.
Oui, tout à fait.
Des contours de lèvres énormes.
Exact.
Qui n'étaient pas très classe d'ailleurs.
Alors, ouais. Moi, quand j'ai commencé il y a à peu près 20 ans, effectivement, j'ai voulu apprendre parce que j'étais déjà très artiste dans l'âme et j'aimais beaucoup tout ce qui était tatouage, etc. Et j'ai donc appris le maquillage permanent. Mais je refusais les contours marrons et les espèces
affreux.
De sourcils de marqueurs comme on pouvait faire. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à faire ma place parce que moi, je voulais vraiment des choses qui sublimait la femme et en aucun cas qui peinturlurait et qui déguisait la femme.
Ouais, donc, ça avait un côté un peu vulgaire même, c'était moche. Hein,
c'était
pas joli,
très laid. Ouais. Et puis les pigments viraient beaucoup, on s'est retrouvé avec des sourcils orange, rose, des contours de lèvres gris.
Ouais.
Non, c'était pas joujou, hein. Fallait y croire à l'époque. Vraiment.
Bon, heureusement, vous êtes arrivé, Jimmy.
Maquillage permanent, du coup, c'est permanent et donc ça dure toute la vie en fait ?
Alors, pas du tout, parce qu'en France, et heureusement d'ailleurs, on n'a absolument pas le droit d'utiliser des pigments de tatoueur pour des raisons diverses, comme les métaux lourds, etc. Nous, on utilise des pigments qui sont dits comestibles par la peau. C'est-à-dire que vous devez refaire des retouches tous les 12-18 mois. Et puis, si jamais vous ne faites pas de retouches, le maquillage permanent va s'estomper. Mais quand j'ai commencé, on devait appeler ça maquillage permanent. Puis on nous a dit c'est mensonger parce que ça s'estompe. Donc, vous devrez appeler ça maquillage semi-permanent. Et puis, quelques années après, on nous a dit bah, finalement, ça sera maquillage permanent parce qu'il restera toujours des traces de pigments dans la peau. Donc, c'est mensonger.
D'accord.
Donc, on n'a pas le droit de dire semi-permanent. C'est vraiment du maquillage permanent.
D'accord, mais qui ne reste pas toute
mais
la vie.
Mais qui ne reste pas.
Mais on
exactement.
L'a compris. On peut commencer à partir de quel âge les plus jeunes clients ou clients que vous ayez je veux dire, est-ce qu'on peut le faire chez des enfants, par exemple ?
Alors, pour des raisons esthétiques, une jeune fille qui va venir, si elle a 18 ans, que les parents sont d'accord, et puis de toute façon, elle est majeure, on le fera avec grand plaisir, mais toujours avec une charte de naturel. Moi, dans mes espaces beauté, je refuse les choses qui sont trop marquées. Maintenant, on accepte aussi des enfants quand ce sont derrière des fentes labiales, des brûlures.
Pour réparer vraiment un préjudice.
Oui, on a vraiment des enfants avec des pelades. Enfin, on a toutes sortes de. Exactement.
Et là, bien sûr, ce sont les parents qui vous les amènent.
Tout à fait.
Mais on demande
toujours, bien évidemment, l'accord et la présence des parents. Et l'autorisation du médecin ou du chirurgien qui est intervenu sur le jeune patient.
Merci Maud Ravier, on n'en a évidemment pas terminé, on reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on passe à la pratique, évidemment. On va commencer par ce qu'il est possible de faire à visée esthétique pour monsieur et madame tout le monde, pour sublimer une bouche, redessiner des sourcils ou encore masquer une cicatrice disgracieuse. Quelles sont les techniques proposées ? Est-ce que c'est douloureux d'ailleurs ? On va tout vous dire dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée Maud Ravier. Elle est spécialiste des techniques de maquillage permanent. Alors Maud, d'abord une petite précision. On peut pratiquer le maquillage permanent. Qui peut le pratiquer finalement ? Est-ce qu'il faut un diplôme ? Ou en tout cas, si on souhaite essayer, vers qui vaut mieux s'orienter ?
Alors la question, c'est la plus importante, c'est celle-là. Tout simplement parce qu'en France, il faut savoir que vous n'avez absolument aucun diplôme obligatoire pour pratiquer le maquillage permanent. Le seul diplôme qui est obligatoire, c'est un diplôme qui s'appelle hygiène et salubrité, qui se passe sur 3 jours. Mais il faut savoir qu'une personne qui n'a pas de talent artistique, qui n'a pas de base de maquillage, qui n'a pas fait d'études d'esthétique...
Jimmy pourrait s'installer.
Mais
là,
oui.
Ouais,
Jimmy
bon,
peut faire... Alors bon, moi, Jimmy peut faire concurrence.
C'est ça.
Et, et le problème, c'est que vous pouvez acheter n'importe quelle machine sur n'importe quel site internet à moindre coût. On vous dit que les aiguilles sont stériles parce que c'est juste marqué dessus, mais qui le prouve ? Vous achetez n'importe quel matériel, c'est pas bon. La seule chose qui est obligatoire, c'est hygiène et salubrité et des pigments aux normes CE.
D'accord.
Voilà, c'est un drame.
On choisit un bon.
Il faut veiller déjà à absolument qu'elle ait un local à elle, avec des normes qui sont très strictes pour l'hygiène. En aucun cas, vous devez faire ça chez vous, ou tout simplement au domicile de la pseudo-technicienne. Et puis, bien évidemment, voir des photos avant, après, le bouche à oreille, s'assurer qu'elle soit bien déclarée, quelle est son assurance, quelle est une collecte d'asserie, qu'on vienne lui chercher ses déchets mous, ses aiguilles. Enfin, c'est un peu comme une infirmière, on ne va pas s'amuser à aller se faire une prise de sang chez n'importe qui. Il y a une effraction cutanée, donc il faut faire attention.
Jimmy ?
On va commencer du coup par ce qui se fait pour de façon durable, le maquillage au niveau des lèvres. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites comme un rouge à lèvres en fait permanent ?
Alors rouge à lèvres, j'aime pas trop dire ça. Bien évidemment, de temps en temps, on me demande du rouge à lèvres, mais encore une fois, je prône le naturel. Ce que j'aime, c'est sublimer. Donc j'ai mis en place des techniques comme la Candylips ou la Magiclips. Ce sont des dégradés de plusieurs couleurs, par exemple pour la Candylips, qui vont donner du volume à la lèvre. S'il y a des dissymétries, on peut venir retravailler, pareil, les dissymétries,
c'est ce
les
que
volumes.
Vous avez sur votre bouche, parce que je regarde depuis tout à l'heure.
Oui, tout à
c'est
fait.
C'est incroyable, on dirait que vous avez mis un super joli gloss.
Voilà, ça
mais
fait
en
un
fait,
petit
non.
effet joli lèvre, mais
c'est
ça ne fait pas
pour ceux qui ont la vidéo, je vous invite vraiment à aller regarder, elle a une bouche magnifique.
Ah, c'est gentil, merci. Vraiment, les bouches doivent être, encore une fois, sublimées, mises en valeur, mais il faut que vous puissiez vous réveiller, aller au sport, aller à la campagne, vous promener sans avoir l'air d'être un camion volé.
Mais on peut choisir un peu des teintes différentes. Vous avez
alors
des...
on a plus de 50 couleurs. Après on fait des mélanges. Nous sommes des réels artistes, c'est-à-dire que nous avons une palette incroyable de couleurs. On vous propose et on travaille avec vous la forme, la couleur. On parle vraiment, au moins on fait un diagnostic d'une demi-heure avant pour bien comprendre la cliente et la psychologie aussi de la cliente. Parce que souvent la cliente veut quelque chose mais ça lui irait pas, elle pourrait pas l'assumer. On a des questions aussi qu'on pose avant de commencer en disant est-ce que vous allez assumer si votre belle-mère vous réveille un matin et vous allez à la plage, vous êtes emparé ou qu'elle vous dit mais qu'est-ce que t'as fait à tes lèvres, t'es maquillée il est 7h, voilà, est-ce qu'on assume, est-ce qu'on n'assume pas,
et là vous allez
tout de suite
bout,
oui, je vais jusqu'au bout de la psychologie. Toutes mes filles sont formées à la morphologie du visage aussi, c'est très important.
C'est de l'intérêt d'avoir des vrais professionnels.
Et
Jimmy,
du coup la séance dure combien de temps, est-ce que c'est douloureux comme un tatouage?
Alors, la séance dure à peu près 1h30. Une retouche est nécessaire 3 semaines à 1 mois après. Bien évidemment, ce n'est pas très agréable. Je ne peux pas vous dire l'inverse. Mais,
ça fait aussi mal qu'un tatouage, par exemple ?
Le tatouage corporel, ça dépend d'où il est placé, mais ce n'est pas forcément très douloureux. Et après, ça dépend de chaque cliente. Chaque cliente a vraiment une sensibilité bien à elle. Mais bien évidemment, ce n'est pas un massage. Hein.
Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas non plus, on ne va pas pleurer. Quoi.
Mais j'ai encore jamais de clientes qui sont parties en plein milieu, par exemple.
Ça va. Donc elles vont au bout. Le résultat, il est immédiat ou pas quand vous nous posez c'est pas ce rouge à lèvres, comment vous dites vous
C'est le Candylips, c'est le Magiclips, c'est un embellissement de la bouche.
Voilà, cet embellissement de la bouche, il est immédiat, je sors de chez vous et ça y est, j'ai mon embellissement qui est là.
Alors non, parce qu'on travaille sur une muqueuse et la muqueuse est assez réactive, c'est-à-dire que vous allez avoir des rougeurs, des petits gonflements, mais qui vont durer 24 à 48 heures. Grand maximum. Au bout de 3-4 jours, vous allez perdre 30 à 40% de l'intensité et on va dire que la parfaite cicatrisation sera entre 3 semaines et 1 mois.
Rapidement, le coût pour les lèvres en tout cas ?
Entre 300 et 500 euros, ça dépend des espaces et des instituts dans lesquels vous le faites.
D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les yeux aussi de même,
alors,
de même ordre,
fait.
De nombre
tout,
à paupières permanentes ?
Au niveau des yeux, on peut faire une intensification ciliaire. Je vous le donne crescendo, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement naturel qu'on peut donner vraiment à toutes les femmes. Ensuite, on a sur l'eyeliner fin. Je refuse personnellement les eyeliners larges, type, on appelle ça les eyeliners à l'oriental. Donc, c'est très joli, fait pour une soirée avec des extensions de cils. Mais pour tous les jours, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir encore une fois trop le regard mis en avant.
Jimmy ?
Est-ce que c'est douloureux justement au niveau de la paupière, vu que la peau est très fine ?
Alors pareil, on utilise des aiguilles d'acupuncture, on y va tout doucement et généralement la cliente supporte, on y va vraiment sur la pointe des pieds. C'est encore une fois une paupière, c'est la peau est très fine, donc on n'est pas obligé de rentrer l'aiguille. À peine on les rafle et ça prend.
Vous pouvez éventuellement mettre un petit anesthésiant, non vous ne le faites pas ça,
non,
y a pas
c'est
les
strictement
crèmes,
interdit. Ouais, nous ne sommes pas médecins et c'est vraiment, les anesthésies sont uniquement réservées aux médecins. Si jamais une cliente devait faire une allergie ou quoi que ce soit, on n'est pas du tout à même de pouvoir faire quelque chose, donc c'est strictement interdit.
D'accord. Et le coup pour les yeux, par exemple, pour l'ombre à paupières, le petit trait de liner.
Oui, et on a oublié le poudré aussi. Ah, parce que le poudré, c'est-à-dire qu'on fait un petit eyeliner très fin et on vient à poser comme un petit fard à paupières. On peut mettre des couleurs taupes, marronnées. Ça, en ce moment, j'en reparle parce que c'est vraiment ce qui fait le buzz en ce moment. Toutes les clientes veulent le fameux cat eyes.
Et alors, ça coûte combien le
cat eyes ? C'est pareil, entre 300 et 500 euros, suivant les instituts où vous allez.
Et on fait ça tous les combien ? Si on veut l'avoir tout le temps
Les yeux, ça tient très longtemps parce que finalement, c'est du noir ou des marrons. C'est des couleurs que la peau a du mal à digérer, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Et généralement, vous êtes tranquille pendant 3-4 ans.
Ah, génial. Maud Ravi, on va continuer cette discussion
avec
passionnante
plaisir.
Juste après. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on poursuit sur les techniques de maquillage permanent avec des indications dont vous avez peut-être entendu moins parler. Cela peut aider à camoufler une alopécie quand on manque un peu de cheveux à certains endroits. Et surtout, cela fait des merveilles pour les femmes après une chirurgie de cancer du sein, par exemple, pour redessiner une aréole mammaire notamment. On vous détaille tout ça dans quelques minutes. Restez avec nous sur Europe 1.
Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, c'est Maud Ravier. Elle est esthéticienne et fondatrice de Maud Dermo Esthétique. Alors, on vous dit tout sur les techniques de maquillage permanent avec elle. Maud, on a parlé de ce que vous pouviez faire pour nous donner des lèvres plus pulpeuses, un peu colorées, pour éventuellement maquiller aussi les yeux, avoir un plus beau regard avec un maquillage permanent. Je crois que vous pouvez aussi faire des choses pour ceux qui manquent un peu de cheveux. Expliquez-nous.
Tout à fait. Ça s'appelle la tricopigmentation. C'est une technique absolument révolutionnaire. À chaque fois, j'appelle ça des techniques révolutionnaires dès qu'on peut toucher au côté psychologique et au complexe d'un homme ou d'une femme. Encore une fois, le côté coquet, on peut s'en accommoder, c'est de la coquetterie, alors que vraiment le côté life repair, c'est génial. Donc je développe la tricopigmentation. Pour un homme, ça va être une calvitie, ça va être une cicatrice de greffe, ou là on va venir corriger, ça peut être une cicatrice de tumeur, une opération. Et pour une femme, alors là, on rentre dans le coquet, mais on rentre aussi dans le complexe. Une femme qui perd beaucoup ses cheveux, c'est une femme qui ne peut pas se mettre de dos dans un restaurant parce qu'elle a peur qu'on voit que ça. C'est une femme qui ne peut pas aller à la piscine, à la plage, parce que sinon elle se met la poudre. Vous savez, il y a des poudres qu'on peut mettre sur le cuir chevelu pour cacher un peu la brillance du crâne. Donc c'est venir mettre des petits points de pigment, toujours à l'aide d'une aiguille et de pigments couleur du cheveu, sur le crâne, sur le cuir chevelu, pour donner une naissance, une impression de naissance de cheveux.
Jimmy ?
Du coup, je suppose qu'on doit rester un peu plus longtemps que pour les techniques classiques sur le maquillage, comme au niveau des lèvres ou des paupières ?
Tout à fait. Ce sont des techniques qui sont assez longues à faire, parce que ça demande beaucoup de précision et de patience. Donc, généralement, vous bloquez votre après-midi, et une ou deux séances, et déjà, on voit le sourire revenir.
Et ça donne vraiment un effet naturel. Quel est le niveau de satisfaction ?
Le niveau de satisfaction, on va dire qu'on le voit quand on voit les femmes qui, au bout de 3-4 séances, me disent « mais c'est dingue, je mets plus de poudre, je vais plus faire le brushing 3 fois par semaine pour essayer de donner du volume à mes cheveux. Je mets plus... » La satisfaction, elle est, à limite à 100%.
Ouais. Même chose pour les hommes qui ont la calvitie, le début de calvitie un peu comme Zidane, à l'arrière du crâne. Bon, Zidane, c'est sexy, mais...
Zidane, c'est sexy, on arrive
avec ces pigments à masquer quand même.
Alors, il faut faire attention. Si on est sur une calvitie naissante, ne faisons pas n'importe quoi. Et ça encore, c'est hyper intéressant d'en parler aujourd'hui avec vous. Ne faisons pas n'importe quoi, parce que si jamais vous vous retrouvez avec une calvitie complète, après 10 ans ou 15 ans, vous vous retrouvez avec des petits points dans le cuir chevelu, alors que vous, finalement, vous auriez tout à fait assumé à 50-60 ans d'avoir une calvitie. Donc, ne faisons pas n'importe quoi. Il faut absolument vérifier que la calvitie soit héréditaire. Donc, on fait attention à comment est le papa, comment sont les anciens.
Vous prenez quand même beaucoup de précautions avant de pratiquer le maquillage permanent.
Mais complètement, n'oublions pas qu'on fait quand même, on met du pigment dans la peau du client. Donc, même si ça finit par s'estomper, on est responsable de ce que le client ou la cliente peut subir dans les années à venir. On ne peut pas s'occuper maintenant de la cliente.
Vous anticipez tout, vous anticipez comment il va vieillir.
Je ne pourrais pas me regarder dans une glace et je ne pourrais pas être là et je ne pourrais pas monter tout ce que je monte si je me disais, allez, je lui fais et puis dans 2-3 ans, ça ne sera plus mon client, on verra. Non, je ne peux pas. Pas possible.
Et là, donc, c'est plus long, vous l'avez dit, des pigments sur le crâne, par exemple, pour une femme qui a effectivement à l'arrière, il manque des cheveux. Combien ça coûterait à peu près la séance, là ?
Alors, malheureusement, j'ai bien envie de dire malheureusement, ce sont des séances qui coûtent assez cher, tout simplement parce que ça prend des après-midi entières.
C'est normal,
voilà.
Bien sûr.
Mais, encore une fois, ce sont des séances qui se refont tous les 3-4 ans et généralement, vous comptez 500 euros la zone. 500 euros la zone, c'est vous écartez la main, c'est à peu près 10 cm carrés.
C'est une zone, oui.
Voilà, et vous faites généralement une ou deux séances pour camoufler ces zones-là.
Enfin, ça vaut le coup, effectivement. Si en plus, on ne le refait pas tous les ans, c'est tous les 3-4 ans.
Non, ça vaut le coup. Ouais. C'est moins cher qu'une greffe.
Pour avoir moins de complexe, oui, effectivement. Et c'est moins cher qu'une greffe. Vous prenez aussi en charge beaucoup de patientes, je dis patientes, mais d'ailleurs, il y a peut-être des hommes aussi, dans le cadre du cancer, pendant le cancer et après le cancer. Pendant le cancer, notamment, ce qui est des sourcils. Pour les femmes qui font, par exemple, des chimiothérapies, on perd ses sourcils. Là, vous pouvez proposer des choses très intéressantes.
Des choses qui sont assez incroyables. C'est-à-dire que la cliente m'appelle en me disant Maud, j'ai une chimio qui commence dans 10-15 jours, qu'est-ce que je peux faire ? Alors là, j'ai dit vite, il faut venir parce qu'en fait, je vais me mettre sur vos sourcils et je vais dessiner des poils le long de vos propres poils. C'est-à-dire que personne ne pourra imaginer que vous avez du tatouage et vous n'allez pas perdre votre identité visuelle. On sait très bien que dans la maladie, le côté psychologique, je ne pourrais pas dire fait 50-60% parce que ça ne serait pas bien vis-à-vis des cancérologues et tous les corps médicaux qui se battent pour ça. Mais je peux vous assurer que quand on discute avec des femmes, on peut se rendre compte que le côté psychologique est assez incroyable pour la guérison.
Donc il faut le faire un peu avant.
Si on le fait avant, je vais venir vraiment me caler à ses propres sourcils, encore une fois, pour pas qu'elle ait de changement. Si on le fait fait pendant, toujours avec l'autorisation du cancérologue, je vais faire au mieux, c'est-à-dire que je vais aussi
travailler... Vous
demandez
l'avis au cancérologue, c'est bien ça aussi, quand parce même, parce qu'il y a d'autres professionnels qui ne le font pas,
non,
je crois.
Non, il faut, parce que pendant la chimiothérapie, on sait qu'il y a des pics au niveau des globules blancs et que les médecins, ils nous disent, oui, là, c'est le bon moment, ou là, surtout, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas, qu'elle sorte de chez elle. Déjà, il ne faut pas qu'elle attrape un rhume, il n'est pas question d'aller lui tatouer les sourcils.
Jimmy ?
Une fois que le cancer est traité, la maladie n'est plus là, mais parfois le corps n'est plus le même. Et du coup, on aimerait parfois retrouver ce corps qu'on avait avant la maladie, mais sans la maladie. Et vous proposez aussi d'agir sur les cicatrices l'opération.
Alors les cicatrices, ça peut être plein de cicatrices. Ça peut être les cicatrices du cathéter, ça peut être
au
des
niveau
cicatrices...
de la clavicule en général,
tout
c'est
fait,
ça.
Tout à fait. Ça peut être les cicatrices tout simplement de la mastectomie, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de femmes qui passent par cette amputation du sein. Et dans ce cas-là, vous retrouvez, c'est pas mes mots, c'est les mots de mes petites clientes, vous retrouvez avec des bosses. Alors les bosses, on sait très bien qu'il n'y a rien de féminin à avoir une bosse à la place d'un sein. Et on, du coup, elles sont très complexées, elles n'osent même pas se regarder dans le miroir. Et nous, notre travail, c'est de venir sublimer cette femme en lui redonnant la possibilité de se regarder et d'être heureuse en se déshabillant, tout simplement. Donc on fait les aréoles mammaires 3D, c'est-à-dire qu'on dessine comme un artiste, on va dessiner une aréole la plus ressemblante que celle qui est saine. Et quand il y a une bimastectomie, on vient redessiner deux aréoles. Et là, il y a des fois des petites crises de fou rire. On choisit la couleur, on choisit la forme. Elles arrivent avec des seins, j'aurais comme ci, j'aurais comme ça. Et là, on sait que c'est la fin de la maladie. C'est des étapes qui sont assez incroyables à passer ensemble.
Et c'est incroyable parce que c'est du tatouage permanent, en quelque sorte, en 3D. Quoi.
Complètement.
C'est ça, on dirait. Moi, j'ai vu des images, effectivement, c'est très bluffant. Ça ressemble vraiment à une aréole normale, naturelle, de chair. Quoi.
Tout à fait. Il faut vraiment se mettre de profil pour voir que finalement, le téton ne ressort pas. Mais de face, on a vraiment une impression de projection du téton. Et tout ça à l'aide de mes aiguilles qui ont différents faisceaux, donc du large, du fin, et de mes pigments, du plus clair au plus foncé. Comme un artiste, on va venir donner des volumes avec du blanc, du noir et du marron.
Jimmy ?
Et vous arrivez aussi à reproduire la circulation superficielle au niveau de la poitrine, les petits vaisseaux qu'on peut voir et qui gonflent.
Ça, c'est mes seins qui parlent, j'adore.
Vous nous refaites tout.
Donc ça, vous pouvez le refaire, ça
aussi ? On dessine des tubercules, on dessine les petites vascularités. Parfois, je leur ajoute des grains de beauté, des petits points rubicons s'il y en a à côté. En fait, on fait un dessin, c'est-à-dire qu'on regarde l'aréole saine, on regarde l'aréole qui doit être construite et on dessine.
C'est très artistique comme métier.
Complètement.
Il faut vraiment avoir
un talent artistique.
Sinon, c'est pas la peine, effectivement.
Non,
ça suffit pas d'être esthéticienne. Je crois qu'il faut quand même avoir en plus ce côté-là un peu de projection, presque de peinture, de faire une œuvre d'art.
Par exemple, moi, dans mes formations, on a différentes académies. Pendant les formations qui durent une semaine sur des professionnels, elles ont une journée entière de psychologie, parce que c'est très important quand la femme se déshabille de savoir quoi dire, quoi faire comment réagir. Et 4 heures de dessin avec un vrai prof de dessin pour vraiment peaufiner le talent artistique de nos professionnels.
S'il faut faire les deux aréoles, admettons, ça prend combien de temps ou même une? Enfin, donnez-nous une idée un peu de... Ça doit pas être facile de faire une aréole en 3D, enfin, ça doit vous prendre un peu de temps quand même.
Faut compter, moi je prends toujours 1h30, 2h pour vraiment avoir le temps de bien comprendre ma cliente et de lui montrer. Déjà, je lui simule ce que ça va faire.
Comment on fait la photo avec
toujours avec mes pigments, mes pinceaux. Je viens lui dessiner l'aréole, on fait la photo avant, après. Et puis généralement, elles sont assez fières de rentrer chez elles et de montrer à la famille, au mari, ce que ça va donner. Et puis parce que nous, on a besoin de différentes étapes. Au début, on place l'aréole, le mamelon et puis les tubercules. Et puis plus les séances arrivent et plus on arrive sur le 3D.
D'accord. Et en fait, après, au départ, c'est juste un dessin, ça lui donne une idée, puis ça se fait en plusieurs séances. Alors,
après, on tatoue tout de suite le premier jour. On va lui pigmenter l'aréole. Donc, elle a déjà, on va dire, 60% du travail qui est fait. Et puis, au fur et à mesure des séances, on vient peaufiner le 3D.
Et ça tient combien de temps? Parce que là aussi, c'est permanent, mais c'est pas à vie non plus.
4-5 ans. Parce qu'encore une fois, on n'a pas le droit d'utiliser des pigments de tatoueur, tout simplement parce que c'est bourré de métaux lourds et que ça va après dans le système lymphatique.
Quand on a eu un cancer, on n'a pas très envie d'avoir des produits
toxiques.
Oui, et
Jimmy va nous renseigner certainement là-dessus. On n'a pas le droit d'utiliser des pigments avec du métaux lourd parce que ça va dans le système lymphatique. Et quand elles viennent faire des échographies de leur ganglion sentinelle, leur ganglion lymphatique, et qu'on se retrouve avec des taches de pigments, y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi être de nouveau opéré. Donc voilà, c'est vraiment très, très important. Et encore une fois, une peau qui a été lésée, greffée, irradié, on ne peut pas se permettre de mettre des pigments de tatoueur avec des contenances de 50-100 ml, 10 stériles, mais ils sont stériles pendant la première minute et encore, alors que nous, on utilise des toutes petites contenances pour pouvoir jeter les flacons à chaque cliente.
Jimmy ?
Je vous avoue que je suis bluffé, honnêtement, j'ai l'impression de parler à un chirurgien esthétique.
Non, c'est gentil.
On sent la compétence,
comme s'il y avait un professionnel de santé en face de moi, parce que vous prenez en charge la patiente dans sa globalité, le cancérologue, ce qu'elle veut, Et donc, je me doute que tout ça a un prix. S'il faut refaire une aréole ou les deux, ça coûte combien ?
Alors, l'aréole coûte 500 euros, les deux aréoles coûtent 850. J'ai conscience, encore une fois, c'est comme la trichopigmentation, absolument, à chaque fois que j'ai un cas de conscience, c'est-à-dire que je sais que je facture cher, parce que malheureusement, c'est le prix de... On a tous des sociétés à faire travailler, mais j'ai toujours une solution pour les personnes qui ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'on travaille avec des associations. On offre la gratuité dans toutes nos écoles, à Paris, à Lyon, à Aix-en-Provence.
Pour les patientes qui ne pourraient pas se le payer elles-mêmes,
bien sûr. Tout à fait.
Parce que pour l'instant, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale.
C'est malheureux. Pour l'instant, ce n'est pas remboursé.
C'est dramatique parce qu'il y a un forfait qui doit se créer post pour le cancer.
Ça pourrait être dedans, ce panier post-cancer.
Alors, c'est remboursé quand on passe avec un médecin, avec un chirurgien, mais pas quand on passe avec, comme nous, une esthéticienne, une artiste. Mais il faut savoir quand même qu'un chirurgien, moi, j'opère souvent avec Marc-David Benjoire de l'Institut français du sein. Excusez-moi pour le terme, ces mecs-là, ce sont des génies de l'opération. Il faut les voir travailler pendant 10 heures sur un dieppe. C'est une opération pour la mastectomie, pour reconstruire tout de suite. C'est pas son job de venir faire l'aréole derrière. Laissons ça à des gens qui sont vraiment
artistes,
capables de le faire. Il faudrait vraiment pouvoir donner la possibilité à ces femmes-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir un numéro de prise en charge. Enfin, tout le monde doit être reconstruit jusqu'au bout. On ne peut pas se retrouver avec une bosse, c'est pas possible. Donc, on peut se permettre, nous, à l'Institut Raphaël, Alain Toledano, on a une cabine, on offre encore une fois la gratuité. On fait tout pour pouvoir proposer aux femmes qui n'ont pas les moyens de passer avec des professionnels et d'elles aussi pouvoir être reconstruites.
Quand vous avez terminé votre séance, que vous avez reconstruit une aréole,
c'est magique.
Ah ouais, mais vous devez avoir des réactions parfois dingues, non, avec les femmes.
C'est le moment qu'on attend et je peux vous dire, toutes mes élèves qui viennent et donc qui sont professionnelles déjà du maquillage permanent, mais qui viennent se former au programme Life Repair, elles viennent toutes pour rechercher ça. Ça devient une véritable passion dans le sens où quand vous travaillez pendant une heure et demie sur une cliente et que quand elle se redresse, elle ne peut même pas cacher son émotion, elle fond en larmes de bonheur. Il n'y a rien à dire. Ouais. C'est
vous faites un beau métier, je crois.
C'est une satisfaction incroyable.
Pour terminer, je reste quand même sur les cicatrices. Donc là, on a parlé de grosses cicatrices de chirurgie mammaire dans le cancer, mais on peut aussi avoir des cicatrices sur le visage, d'un bec de lièvre ou d'autres choses. Vous pouvez agir là aussi? Qu'est-ce que vous pouvez faire?
Alors, tout à fait. Sur les fentes labiales, on peut travailler sur tout ce qui est dessin, des symétries, si jamais il y a des problèmes, parce que souvent, c'est difficile après une chirurgie, parce que souvent, c'est 5-6 chirurgies pour avoir une belle lèvre. Donc, on retravaille les symétries, on retravaille les couleurs, on travaille les cicatrices. On peut travailler les cicatrices de lifting. Un chirurgien, quand il opère, il a beau opérer excellemment bien, il ne remettra jamais la mélanine sur la peau qui a été coupée, lésée. Donc, on vient remettre, encore une fois, avec des pigments chers, comme un fond de teint. On vient mettre de la couleur sur les cicatrices blanches.
Jimmy ?
Les chirurgiens esthétiques ont une obligation de résultat. Vous, est-ce que vous leur promettez quelque chose ? Un pourcentage de réussite, un avant-après pour leur dire voilà ce qu'on peut espérer et voilà ce que
tout
vous allez
fait,
avoir.
Tout à fait.
Vous ne leur promettez pas la lune non plus parce que vous ne pouvez pas revenir à une peau comme elle était avant.
Non,
c'est
jamais. Ça serait pire que tout que de promettre quelque chose. Non, jamais. C'est-à-dire que je leur demande de m'envoyer un mail avec leur photo et je leur envoie toujours un pourcentage. Ça peut aller de 20% comme ça peut aller à 90%. Il n'y aura jamais de 100% parce qu'on ne peut pas rentrer dans la tête des gens. Ils peuvent des fois être insatisfaits. Et ce qui est incroyable, c'est que même parfois quand on promet 20%, il y a des gens qui me disent ça sera toujours mieux. 20%. Ah ouais. Parce qu'on travaille aussi sur la scarification.
Ah oui.
On travaille sur les tentatives de suicide. Donc tout ça, encore une fois, c'est des choses qui sont difficiles à camoufler. Et une fois qu'on a retrouvé la couleur peau sur une cicatrice blanche, il y a quand même des malaises qui sont assez... assez vite géré avec la couleur.
Merci beaucoup Maud Ravier d'être venue sur notre plateau nous expliquer tout ce qu'il est possible de faire grâce aux techniques de maquillage permanent. On a compris que ces soins esthétiques contribuent aussi à réparer les femmes qui viennent vous voir de l'intérieur finalement. On répare l'extérieur et l'intérieur, notamment celles qui ont été atteintes d'un cancer. Merci encore, vous êtes donc la fondatrice de Maud Dermato-Esthétique. Si ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à aller sur votre site internet. Merci.
Oui, merci beaucoup à vous pour l'invitation.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de l'AIT, l'accident ischémique transitoire. Ce n'est pas un AVC, mais attention, cela peut parfois être une alerte neurologique. On vous expliquera tout, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui on parle de l'AIT. Savez-vous ce qu'est un accident ischémique transitoire? Ça se passe dans le cerveau, mais quelle est la différence avec un AVC? Savez-vous quels sont les symptômes? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
AIT. Je vois pas du tout ce que ça peut être.
Ah, AIT.
AVC, c'est accident vasculaire cérébral. Donc AIT, accident ischémique.
C'est un accident ischémique transitoire.
La personne, elle s'écroule. Bah, je pense qu'il y a des symptômes au niveau du visage, au niveau de paralysie de membres, des choses comme ça.
Donc en général, quand on a des AIT, ça va être juste une période très transitoire où on va avoir comme des petits symptômes de l'AVC.
Ils sont plus à même de parler, qui sont obligés d'être dans un siège roulant parce qu'elles ne peuvent plus marcher. Ouais, c'est très très grave.
Difficulté du langage, des paralysies souvent que d'un côté du visage par exemple, une douleur à un bras.
Le flux sanguin, du coup, il faut le rétablir. Je pense qu'en fait, ça doit être des caillots qui se mettent dans des veines ou des artères ou des choses comme ça et ça bouche. Et comme ça bouche, ben, y a une partie du corps qui se retrouve non irriguée.
Jimmy, on va faire ensemble un point sur ce qu'est un AIT, un accident ischémique transitoire. Expliquez-nous ce que c'est précisément et si c'est fréquent.
Alors en France, c'est 40 à 50 000 personnes qui ont un accident ischémique transitoire. Alors tout le monde commence à connaître les symptômes d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et ben pour un AIT, c'est exactement la même chose. La seule chose, c'est que ça dure moins longtemps, de quelques minutes à quelques heures, puis tout rentre dans l'ordre.
D'accord.
Néanmoins, il faut absolument consulter car il y a une véritable urgence derrière ce symptôme.
Vous dites tout le monde commence à connaître les symptômes de l'AVC. Rappelez-nous quand même, ça fait jamais de mal.
Alors c'est l'apparition brutale d'un symptôme neurologique quel qu'il soit. C'est-à-dire que vous pouvez tout d'un coup avoir la main gauche ou la main droite qui devient engourdie. Vous dites c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir dormi dessus.
Mm-hmm.
J'ai l'impression que j'ai la jambe qui traîne. Bizarrement, j'ai du mal à trouver mes mots, à m'exprimer. Des troubles, on appelle ça une aphasie.
Mm-hmm.
Un trouble visuel, un vertige d'apparition brutale. Donc tout déficit, tout signe neurologique qui apparaît brutalement doit absolument vous faire une seule chose, c'est d'appeler le 15. On ne se rend pas aux urgences où l'attente en ce moment est très compliquée, c'est toujours comme ça. Vous allez perdre du temps, on appelle le 15, il va évaluer la situation. Et si besoin, et si on estime que vous faites un AVC ou un AIT,
ouais. On
vous envoie en soins intensifs de neurologie.
Dans un centre spécialisé pour traiter ça.
Dans un centre de neurovasculaire pour savoir ce qui se passe et éventuellement traiter l'artère qui serait bouchée. Dans l'AIT, l'artère se bouche puis se débouche. Mais elle risque de se reboucher par la suite.
Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est très important, c'est que même si ces signes disparaissent au bout de quelques minutes, c'est quand même grave, il vaut mieux consulter au plus vite, donc via le 15, comme l'expliquait Jimmy. On a justement posé la question au professeur Pierre Amarinco, chef du service de neurologie de l'hôpital Bichat à Paris. On écoute.
Il faut le voir un peu comme la fumée du volcan, hein, avant l'explosion volcanique. Il faut réagir tout de suite, même si on retrouve l'intégralité de ses fonctions. Mais c'est la même urgence car l'intérêt de cet accident, c'est le symptôme d'alerte par excellence. Si on fait les examens complémentaires immédiatement, qu'on traite le patient immédiatement, on réduit de 80% le risque d'avoir le véritable AVC derrière.
Alors on l'a compris, il faut consulter assez vite après une suspicion d'AVC, d'AIT. Qu'est-ce que les médecins vont faire puisque l'accident, l'AIT, il est passé, donc
mais,
ça s'est débouché.
L'idéal, c'est d'être hospitalisé dans les 24 heures. Ça permet de diviser par deux le risque d'AVC dans les jours ou mois qui suivent. L'objectif, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez fait cette AIT. Parfois, ça peut être une hypertension artérielle qui serait mal équilibrée. Parfois, c'est une arythmie cardiaque. On en a parlé, des palpitations qui vont entraîner un petit caillot au niveau du cerveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la cause de l'AIT, les patients sont à très haut risque vasculaire. Ils ont entre 10 et 20% de risque de refaire un AVC dans les 3 mois qui suivent. Donc le but du jeu, c'est d'avoir ce qui se passe pour le traiter et empêcher la récidive. C'est une véritable urgence neurologique.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après c'est la sexo avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de pilosité féminine. Elle répondra à un jeune homme qui a quelques problèmes de libido depuis que sa copine ne s'épile plus. Pas de jugement bien sûr, chacune fait comme elle veut, mais on répondra à ce jeune homme. D'abord, on écoute de la musique avec le chanteur Robbie Williams et son titre Suprême.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui arrive dans ce studio. Catherine Blanc, psychanalyste,
oui,
voilà, et sexologue à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie. Bonjour
alors,
Jimmy.
Aujourd'hui, Catherine, on a une question de Fabien. Je vais vous la lire tout de suite. Voilà un an que ma copine s'est laissée pousser les poils aux jambes au nom du féminisme. Elle ne m'a jamais vraiment demandé mon avis. Sur le principe, je n'ai rien contre, mais cela a tendance à diminuer mon désir sexuel envers elle. Que dois-je faire ? Alors Catherine, pourquoi les hommes, de façon générale, n'aiment pas les poils aux jambes des femmes ? Alors, d'abord, c'est une histoire de mode, hein, parce qu'il fut un temps où la question ne se posait évidemment pas, et heureusement pour Madame de Cro-Magnon. Bon, il y a bien sûr la culture de l'épilation de longue date, notamment avec le sucre, le miel, etc., qui s'est faite. Il y a eu même d'ailleurs des moments où on dégarnissait les fronts au nom de l'intelligence, selon les siècles, etc. Donc, il y a toujours eu des modes qui ont traité le cheveu, le poil, toujours au nom d'une certaine différenciation.
Et même en France, sur des périodes récentes, j'imagine, dans les années 70, peut-être.
Exactement. Alors, il y a toujours des idées, j'allais dire, politiques derrière, des revendications de genre aussi, puisque finalement, on a scindé l'idée du poil masculin, expression de la virilité, et d'un côté pour les hommes, et de l'absence de poil, expression de féminité, quand bien même les femmes ont des poils plus petits, plus fins, bien sûr.
Le poil n'est pas féminin aujourd'hui
C'est une lecture culturelle, donc ce n'est pas du tout un truc horrible, c'est simplement que culturellement, nous n'avons pas le regard accueillant du poil chez la femme, d'où dans le féminisme, certaines qui vont revendiquer de le garder pour justement ne pas être coincées dans un devoir de satisfaire le désir masculin ou de se genrer de façon trop manifeste avec l'idée qu'il y a un traitement, voire douloureux d'ailleurs, pour se faire épiler, etc.
Alors Jimmy, je ne connais pas votre avis sur les poils féminins, mais vous avez une question.
Oui, je soutiens Fabien, évidemment. Je soutiens sa peine et son désarroi. Et je comprends sa baisse de libido, pour être tout à fait honnête. Mais est-ce que ce n'est pas un féminisme un peu au rabais de se dire « Tiens, je vais me laisser pousser des poils ». Est-ce que vraiment c'est un combat, c'est vraiment une histoire de lutte entre ce que la femme doit subir pour séduire l'homme? Est-ce que ça va pas au-delà de ça? La même façon que on fait attention à comment on s'habille, on se parfume, dans ces cas-là, ne faisons plus rien pour ne plus plaire à personne.
Oui, c'est sûr que, en fait, ça, ce sont des débats qui sont des débats politiques, c'est-à-dire que chacune trouvera dans son expression féminine le plaisir d'être femme ou le devoir de revendiquer de l'être. Souvent, dans cette revendication, il y a souvent une revendication d'équité qui, du coup, se fait dans une masculinisation. Est-ce que c'est vraiment intéressant?
Et qui s'entend, pourquoi pas, hein, cela dit, elles font ce qu'elles veulent, bien sûr.
Chacun est libre de faire ce qu'il veut,
bien sûr.
Bien évidemment. Après, on peut toujours se poser. Je crois que qui que l'on soit et quoi que soit notre position, il est toujours intéressant de la questionner pour nous-mêmes, pour savoir vraiment à quoi l'on joue là-dedans. En l'occurrence, que cette femme ait décidé de se laisser pousser les poils.
Oui, là,
pour
on
ne
donne
question...
pas vraiment notre avis. On répond en tout cas à la question de Fabien qui dit que lui, il a moins de libido. Donc,
voilà. Alors, d'abord, qu'elle ne lui ait pas demandé son avis, on peut concevoir que son corps, c'est son corps.
Oui, elle fait
bien
ce qu'elle veut.
Donc, jusque-là, encore une fois, et surtout si elle revendique un féminisme. Elle ne va pas demander la permission, effectivement, ça se conçoit, la logique en tout cas, on peut la comprendre. Après que ça inhibe sa libido, on peut aussi le concevoir parce que justement, dans notre lecture que nous avons du féminin et du masculin, eh bien, on peut y entendre quelque chose de masculin et peut-être a-t-il le sentiment à ce moment-là qu'il voit des jambes d'homme dans son lit et que ça inhibe du coup son hétérosexualité ou que ça l'angoisse d'avoir quelque chose qui s'apparenterait d'une manière ou d'une autre à une fantasmatique homosexuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est masculine, mais dans sa lecture...
On peut comprendre sa réaction,
en tout
cas, dans
cette lecture-là. Il peut avoir le fantasme qu'il y a quelque chose du masculin qui s'invite dans son lit, ce qui inhibe sa libido.
Jimmy ?
À contrario, les hommes pourraient, on va dire, supporter un peu plus des poils au niveau du pubis. Pourquoi cette différence ? Pourquoi on accepte plus le pubis alors qu'on serait plus gêné par des poils au niveau des jambes ?
Peut-être parce que là, pour le coup, il y a de très 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 longues dates, pas de poils sur les jambes des femmes. Alors que le pubis, de toute façon, il y a une idée de toison, puisque le sexe féminin n'étant pas visible comme le serait un pénis, eh bien la toison participe d'une mise en scène d'un voile pudique posé sur un pubis, sur des lèvres, etc. Mais encore une fois, notre époque moderne a complètement enlever les poils du sexe féminin, c'est à se poser la question de la capacité à accueillir un corps pubère et chercher désespérément un corps enfantin dans ce sexe féminin sans poils aucun. Effectivement, ce sont des modes qui ont plus ou moins de temps long dans l'histoire, donc des esprits ou des regards que nous avons posés qui ont fait loi finalement. Et encore une fois, posons-nous la question de la légitimité de tout cela.
Juste pour terminer, Catherine, petite réponse à Fabien. Il doit faire quoi ? Il doit lui en parler ?
Il doit lui dire qu'il trouve ça, pour lui, c'est un peu dérangeant, qu'il préfère sans pour autant nier qu'elle est pleinement féminine et qu'elle n'est soumise à rien
et que peut-être elle pourrait trouver dans un quelque chose d'autre.
Une demi-épilation, on ne sait pas.
Non, mais c'est, en fait, c'est, est-ce que c'est vraiment au nom du féminisme ou c'est par désinvestissement de son corps et donc du coup une désérotisation de la relation, ça peut être.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, nous allons parler de l'alcoolisme chez les femmes. Elles sont de plus en plus concernées. Pourtant, cette addiction est encore très taboue. Une femme qui boit, ça dérange. Nous verrons quels sont les facteurs de risque et les conséquences pour ces femmes. Mais tout de suite, on retrouve comme chaque jour Mathieu Noël et son équipe sauvage. Je suis sûre qu'ils sont en pleine forme. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous car vous êtes une fiefée gourmande, je le sais Mélanie. Et aujourd'hui, qui en reçoit ? Un copain, un collègue, Laurent Mariotte, que vous retrouvez tous les jours sur TF1 et tous les samedis sur Europe 1. Il publie « Mieux manger toute l'année », un livre génial avec tout simplement une recette facile par jour.
Un programme gourmand.
C'est idéal pour nous. Il va nous mettre en appétit.
Un programme gourmand, j'adore ça. Merci beaucoup Mathieu. On vous souhaite une très bonne émission et vous, restez sur Europe 1.